C'est une robe en soie noire, un haut de coton blanc, du jersey rose. Peut-être est-ce aussi la peau, l'étoffe du corps, mon tissu préféré. C'est le titre de votre premier long métrage qui sort aujourd'hui en salle. Bonjour Gaïa Gigi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre film concourait cette année à Cannes dans la sélection Un certain regard. Un personnage principal, Narla. Oui. Jeune femme de 25 ans, ses deux sœurs et sa mère, c'est une gynécée que cet appartement de Damas. Des sœurs avec des caractères très différents les unes les autres.
Tout à fait.
Parlez-nous de ces quatre femmes.
C'est justement, je voulais parler de plusieurs facettes de la femme. De plusieurs sortes des femmes dans cette société en fait. D'abord Nala qui vit au début un tiraillement, après elle va faire tout un parcours qui est plus un parcours psychologique pour arriver à répondre à une question qui est qui je suis, qu'est-ce que je fais dans cet endroit-là, comment je peux surmonter tout ce qui se passe autour de moi. Et puis sa sœur cadette Myriam qui est plus une fille plus docile, qui se pose des questions mais elle n'a pas envie de répondre à ces questions en même temps. Donc c'est plus la femme qui accepte les choses telles qu'elles sont. Et puis la petite Lynn, que pour moi elle représente la nouvelle génération de la Syrie, la vraie révolution de la Syrie, cette toute jeune génération qui voilà a assumé beaucoup de choses très jeune, qui a répondu à des questions très jeunes. Et puis il y a la mère.
Voilà, et la maman, visage fermé.
Voilà,
souvent.
Visage fermé, c'est la matriarcale qui veut, voilà, protéger ses filles et qui, pour moi, c'est une sorte de petite dictature, en fait, dans un pays où il y a une grande dictature, en fait. Pour moi, c'était un peu ça.
Au sein d'un appartement de Damas, donc trois sœurs, une maman, un dîner.
Elle, Samir Telfano. رح يجي الأحد
فنزان
وأخيرا رح يجي الرجل المنتظر ليش ما بيشوف واحد من أمريكا محل معايش
لأنه بده ياخد واحد من البلد
خليني يتجوز تحت القصف لكان
بعدين نروح كلنا على أمريكا
معطيني خبز.
Alors c'est la mère de Narla qui annonce que les parents de Samir ont téléphoné, ils vont venir dimanche. Alors les sœurs sont intriguées, vraiment, enfin l'homme tant attendu va venir, pourquoi il ne trouve pas une fille aux États-Unis? Et la mère de répondre, parce qu'il veut une fille de son pays. Alors bah, qui se marie sous les bombes alors, répond la plus jeune, et après on ira tous vivre aux États-Unis. Voilà, et c'est une situation, un homme aux États-Unis, à l'étranger, qui veut se marier avec une Syrienne, c'est une situation que vous connaissez dans votre entourage.
Dans mon entourage, mais moi je l'ai vécu très jeune en fait. Ma
vous
mère
a beau
genre 20 ans, ma mère a toujours voulu me présenter à des hommes, que ça soit enfin des Syriens qui vivent en Syrie ou des Syriens expatriés, parce que voilà, pour elle enfin le but de la vie d'une femme, c'est de se marier, c'est de faire des enfants, et c'est une situation aussi que j'ai connue beaucoup autour de moi, de mon entourage, des copines qui se sont mariées par cette façon-là.
Mais dans votre film, Samir vit aux États-Unis et la petite sœur un peu garçonne dit bah, qu'il se marie sous les bombes s'il veut se marier avec une Syrienne. Pourtant, en 2011, date à laquelle se passe cette histoire, la guerre n'a pas éclaté encore, mais il y a quelque chose dans l'air.
Voilà, il y a quelque chose dans l'air, mais pour moi, le personnage de Lynn, c'est un peu un personnage qui arrive à prévoir les choses. En fait, c'est comme si un personnage dans sa folie, parce que c'est un personnage qui a une certaine folie, en fait, et un comportement assez infantile, mais en même temps, comme si elle a cette capacité de prévoir les choses. Même à un moment dans le film, elle dit à sa sœur Nala, elle va se passer des choses terribles. C'est comme si ce personnage elle a un sens infantile qui peut, voilà, qui peut sentir plutôt les choses.
Mais elle le sent que le printemps arabe se rapproche. En Tunisie, en Égypte, les grands rassemblements des places Tahrir se sont déjà transformés à l'époque en véritable révolte. En Syrie, Bachar al-Assad anticipe la rébellion, en souvenir de celle que son père avait écrasée dans les années 80.
Oui.
Et dans l'appartement de ces femmes, sans cesse, la radio, la télévision le rappellent.
Bah, parce que c'était le cas aussi dans toutes les maisons de la Syrie, en fait. Au début, voilà, des événements, on écoutait sans cesse les infos. C'était présent tout le temps, en fait, parce que voilà, c'était un grand changement aussi dans le pays qui était en train de se faire. On voulait savoir ce qui va arriver, ce qui va se passer. Donc voilà, c'était un peu omniprésent dans notre quotidien, ces infos.
C'était omniprésent, ce sont de véritables archives, hein, je crois, qu'on entend.
Tout à fait, ah oui, tout. Tout.
Et en même temps, il y a une certaine tranquillité quand, par exemple, Narla, avec sa collègue dans la boutique, parle. Alors, sa collègue lui dit, dans la boutique de vêtements où elle travaille, elle lui dit qu'elle veut aller vivre à la campagne chez ses parents parce qu'elle a peur, mais tout ça très calmement, en ajustant un collier de perles sur un mannequin.
Voilà, justement, parce que même malgré la peur, malgré l'angoisse, l'attente de ce qui va arriver, il y a une vie qui continue aussi. Et une vie qui a continué malgré tout ce qui s'est passé en Syrie, toute la violence qu'il y a eu. Dans un coin, il y a toujours un quotidien qui va continuer, des gens qui vont essayer de mener leur vie d'une façon, entre guillemets, assez normale. Donc voilà, la vie continue, les gens vont chercher à tomber amoureux, à mener aussi une vie à côté de la violence qui se passe. Et cette violence, bien sûr, va avoir un effet très, très fort sur ce quotidien.
Et vous, Gaïa Gigi, votre écriture, comment elle a suivi les différentes étapes tragiques de cette guerre? Vous avez commencé à écrire quand? Vous avez commencé à tourner quand?
Ben justement, moi, j'ai commencé vraiment l'écriture au début des événements. Vers fin 2010, j'avais cette idée de raconter l'histoire de cette fille. Et puis, en mars 2011, il y a eu la révolution en Syrie. Donc à ce moment-là, je me sentais que mon personnage peut pas du tout échapper à ce qui se passe. Et je trouvais petit à petit que la violence qui se passait à l'extérieur poussait le personnage principal à vivre une violence avec elle-même. C'était un personnage qui est en violence tout le temps avec elle-même, une violence qui va la pousser aussi à découvrir des choses qu'elle savait pas sur elle-même, à mettre son doigt sur des zones un peu noires à l'intérieur d'elle. Donc, et même si, voilà, après quand j'ai avancé avec l'écriture, ça a pris beaucoup de temps, j'ai toujours voulu placer mon film dans cette période historique de la Révolution, parce que pour moi, là, il y avait l'espoir, en fait, et c'était le début. Il y avait l'espoir d'un changement qu'on n'a pas abouti, malheureusement. Donc, c'est pour ça, c'était la période la plus importante et je voulais toujours placer mon film là.
Et Damas, tel qu'on la voit à l'écran, avec ses immeubles intacts, la vie dans les rues, les mamans, les poussettes, c'est ainsi que vous l'avez quitté, cette ville, vous l'avez quitté quand?
Moi, j'ai quitté Damas fin 2012. Donc, voilà, c'est Damas pendant un certain moment et elle est restée la ville protégée, en fait, parce que voilà, c'est la ville de régime. Donc et pour moi, voilà, j'ai montré ces photos là, ces images pardon, d'une nature documentaire pour dire un peu que voilà, cette vie est menacée et va beaucoup se transformer après.
بس انتي بحياتك ما حبيتي للبلد
نقلت حنين الحنين مو مثل الحب
فينا غير نحن الأموات
نعم تحكي هيك
بدو يصير شغلات بترعب هون نهلة
لا تحكي هيك خوفتيني
على كل حال هذا الشيء الوحيد اللي منقدر نعمله خاف
Je voulais juste m'enfuir, je voulais juste que ce pays me manque, dit Narla à sa petite sœur. Et sa petite sœur de lui répondre, mais tu n'as jamais aimé ce pays. Mais, répond Narla, je parlais de nostalgie, pas d'amour. La nostalgie, c'est pour les morts, lui répond la petite sœur. Pourquoi tu dis ça? Mais il va se passer des choses terribles, Narla. Ne dis pas ça, tu me fais peur. C'est la seule chose qui nous restera, avoir peur. C'est toujours une question qu'on se sent un peu bête de poser à une réalisatrice, mais savoir si ce film a aussi été pour vous comme un remède, comme un...
Tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est pour moi, voilà, l'écriture pendant cette période-là, c'était l'échappatoire en fait pour moi. C'était l'issue. En fait, et voilà, moi je trouve justement quand on parle de nos peines, c'est comme si, enfin, d'une certaine façon, c'est une sorte de thérapie en fait pour moi. Le cinéma, c'est comme si, voilà, on est guéri d'une certaine façon.
Et vous aviez au départ projeté un tournage en Syrie, c'était possible?
Ouais, vous enfin, étudié, ouais. Parce que justement, j'avais toujours cet espoir que les choses vont changer, les choses vont se régler, et oui, je vais pouvoir tourner mon film en Syrie. Malheureusement, c'était pas le cas. Et à un moment, voilà, je me suis retrouvée obligée de tourner mon film dans une autre ville. Donc, j'ai choisi Istanbul parce que, voilà, c'est une ville orientale qui ressemble un peu à Damas et à cet esprit-là. Et mais oui, non, j'étais très triste de ne pas pouvoir tourner en Syrie. Et moi, j'ai toujours ce rêve d'un jour d'aller tourner là-bas, un film. Même si je trouve que c'est toujours compliqué.
Alors, pour avancer dans l'histoire de mon tissu préféré, donc Narla finit par rencontrer Samir, et puis la discussion est un peu gênée, il dit pas grand chose, est-ce qu'il pleut beaucoup chez toi? Ben oui, je te l'ai déjà dit, moi je travaille, mon travail est très pénible, à temps plein, pendant le week-end je sors avec mes frères et sœurs, j'aime bien mes neveux, on fait des pique-niques, et puis Narla lui dit mais ta vie est ennuyeuse en fait. Et Narla, 25 ans, portée par cette magnifique actrice, on la sent toujours tiraillée par ce désir de quitter la Syrie et son désir de vivre et de vivre sa vie de jeune femme de 25 ans malgré les contraintes que lui impose la société syrienne. Parce que elle et sa petite sœur, on les sent très libres et on les sent très fortes. Comme femme, en tant que femme.
Voilà, même si, voilà, elles sont très différentes en même temps, parce que je trouve que Lynn, la petite, elle a assumé beaucoup plus des choses, en fait, par rapport à sa sœur, au questionnement de sa sœur. Et c'est un personnage, voilà, qui s'exprime, contrairement à Nala, qui cherche à répondre à ces questionnements d'une façon beaucoup plus différente. Et donc voilà, pour moi, le personnage de Nala, elle vivait toujours ce tiraillement entre voilà, je veux quitter ce pays parce que j'aime pas ce pays, mais en même temps j'ai envie d'avoir la vie d'une femme libre dans cet endroit-là, mais comme c'est pas possible, ben peut-être il faut que je m'en aille ailleurs.
Ailleurs ou à l'étage du dessus.
Voilà, à l'étage du dessus.
Sliki. Zabaini. ما عندنا ساعة محددة كل واحد شغلته شكل وكلهم بيجوا لهون لنفس السبب لينسوا خبرك لما يكون في عندي غرفة فاضية لو انت بدك اياها
بكرة
استعجلي ايه طيب.
Narla s'est décidée à frapper à la porte de sa voisine du haut dont elle pressentait, sa nouvelle voisine, elle pressentait qu'ici passait quelque chose et il se trouve que sa nouvelle voisine projette, on le comprend petit à petit, d'ouvrir une maison close et Narla se propose. Elle dit je veux vivre ici en fait, je veux m'installer là. Il n'est pas question que de la place des femmes dans la société, dans votre film. Il est aussi question de la sexualité dans l'intimité de ces femmes.
Oui, c'est un film aussi qui parle du rapport des femmes avec leur corps, en fait, la découverte de leur sexualité, de leur plaisir, et même parfois trouver le plaisir dans le mal, En fait, à un moment, pour moi, le personnage de Nala, elle est un peu attirée par le mal qui est présenté pour moi par le personnage de l'homme militaire.
Le mal ou le mal? L'homme, le mal ou le mal? L'homme militaire qui est dans la cuisine, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est à un moment, elle est fascinée par ce personnage. Elle peut imaginer ce qui peut présenter ce personnage, c'est un peu un tyran, c'est le symbole de tyran, en fait.
Il lui bande les yeux et lui demande sans cesse de répéter un conte.
Et justement, à un moment, elle se sent qu'elle est fascinée par sa présence, elle est fascinée par cette histoire qu'il a toujours envie d'écouter. Mais quand même, à un moment, elle a même envie de se libérer de cette attirance et de basculer le jeu de pouvoir entre eux et à ce que ça soit elle, en fait, qui prend le pouvoir. Donc voilà, c'est aussi, ça parle des complexes et des contradictions, en fait, de la question du plaisir de la femme.
Et spécifiquement en Syrie, est-ce qu'il y a eu un début de révolution sexuelle en Syrie, comme on l'a dit, des pays qui ont connu les printemps arabes?
Justement, c'est encore très très timide et moi je trouvais que avec tout ce qu'il y a eu dans le monde arabe, ça n'a pas du tout aidé à avancer la situation de la femme, et c'est ce que je trouve ce qui est assez triste, en fait, parce que justement tant que la femme est libre dans une société, cette société peut beaucoup avancer dans sa recherche de liberté, dans sa conquête de liberté. Donc malheureusement, même avec le mouvement qu'il y a eu dans le monde arabe, le printemps arabe et tout, ça n'a pas fait avancer la situation de la femme, même ça l'a compliqué, en fait, je trouve. Et je trouve que il y a encore beaucoup de travail à faire. On a besoin d'une révolution féminine, en fait, dans le monde arabe.
Gaïa Jiji, il y a quelque chose de belle de jour dans votre film?
C'était ma référence.
Ça vous a influencé?
Voilà. C'était un de mes points de départ pour l'écriture. Et justement, j'étais fascinée par... d'abord, moi, j'adore ce qu'il fait, Buñuel. Et puis, dans ce film, je voyais cette femme qui s'ennuie dans sa vie et qui va chercher une vie ailleurs. Et on sait même pas si c'est de la réalité ou si c'est que des fantasmes, mais on voit que elle a envie de vivre sa sexualité d'une façon très différente. Et justement, elle, à des moments, elle trouve le plaisir sexuel dans le mal, en fait. On va dire, chez Madame Anaïs, elle vit tout ce qu'elle peut pas vivre dans sa vie normale ou dans son quotidien.
Parmi d'autres références cinématographiques, vous citez Une journée particulière d'Ettore Scola.
Justement, parce que là,
Narla étant Sophia Loren.
Ce que là, je trouve ce qui est très intéressant aussi, c'est l'influence du grand contexte politique sur l'intimité des personnages et comment parfois les réactions même dans l'intimité des personnages peuvent être une réponse à ce qui se passe à l'extérieur, au grand contexte politique.
Pour rappeler, dans une journée particulière, Antonietta, Sophia Loren, est assignée dans son appartement pour s'occuper de ses enfants et des tâches ménagères, pendant que dehors, tous les Romains sont en train d'assister à la rencontre entre Hitler et Mussolini. On est en 1938, donc l'ampleur de l'extérieur, du contexte politique, sur l'intimité du personnage, ça vous intéressait?
Justement, et c'était aussi la façon dont j'avais envie de construire mon film. Je voulais pas faire un film classique sur la guerre, et parce que je trouvais aussi que là il y a une question humaine aussi, Voilà que cette question humaine, elle est influencée par voilà le grand contexte politique. Et je voulais vraiment à ce que les deux avancent en parallèle et qu'ils vont se converger sûrement à la fin.
Gaïa Gigi, ce contexte politique, est-ce qu'il vous empêchera, en tout cas, est-ce que votre film Mon tissu préféré pourrait être projeté en Syrie? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des réseaux de diffusion de films à l'abri des regards officiels? Pas un peu.
Non,
plus
après,
rien.
Voilà, ça peut être peut-être peut-être les Syriens vont pouvoir parvenir des DVD ou Internet. Voilà, c'est toujours, ils arrivent à s'en sortir avec ça, surtout les jeunes Syriens avec Internet. Et moi, vraiment, j'ai trop envie que le film soit vu par les Syriens et surtout les jeunes Syriens, parce que pour une projection en Syrie, une vraie projection, on va dire, en salle, je pense que c'est impossible.
Merci Gaïa Gigi. Vous croyez à la renaissance d'un cinéma syrien?
Oui, beaucoup. Beaucoup, ouais. Parce que là, il y a beaucoup de cinéastes syriens, justement, qui ont quitté la Syrie et qui cherchent à faire du cinéma avec des moyens en Europe ou d'une façon indépendante, loin du cinéma de l'État en Syrie. Donc, je pense qu'on va vraiment avoir une vraie émergence dans le cinéma syrien, mais qui va être plus dans le diaspora.
Mais qui se financera comment? Vous avez bénéficié
en Europe,
des aides.
Voilà, en Europe, par des fonds européens. Voilà, c'est plus ça. C'est notre façon de faire des films.
Bon, vous avez d'autres projets pour conclure?
Oui, c'est encore le début, le tout début. Mais j'ai envie de parler d'un exilé syrien à l'étranger qui essaye de reconstruire sa mémoire. Parce que je me sens que là, autant que Syrien vivant à l'exil, on a ramené une mémoire avec nous, une mémoire assez lourde, et qu'on doit d'une certaine façon la reconstruire dans ce pays d'exil.
Vous avez l'impression que c'est une mission pour vous, c'est une mission que vous vous êtes donnée, vous le faites aussi au nom de ceux qui sont restés.
C'est aussi une envie, voilà, c'est une envie et c'est comme voilà, j'ai dit. Pour moi, le cinéma, c'est la remède, en fait. Donc, moi, je vis maintenant dans cette situation. Je suis entourée des gens qui vivent cette situation-là. Et pour moi, j'ai toujours besoin de travailler sur des choses personnelles, en fait. Parce que, voilà, c'est là où je trouve que je peux plonger dedans et je peux bien m'exprimer.
C'était le cas dans vos tout premiers courts ou moyens, parce que là, Mon tissu préféré, c'est votre premier long métrage.
Oui. Vous aviez mis de vous aussi. Surtout dans le troisième court métrage, Matin, Midi, Soir et Matin. C'est c'était aussi un projet très personnel, parce que ça parle aussi d'une femme qui cherche sa liberté. Elle quitte son fils et son mari pour aller avec son amant. Et mon tissu préféré, c'est un film très personnel. C'est pas une autobiographie, mais c'est un film très personnel.
Bon, et ce tissu préféré, alors c'est quoi?
Alors, ce tissu préféré, c'est le tissu qui a un rapport très intime avec le corps.
Sensuel.
Et pour moi, c'était c'est mon tissu préféré, c'est mon choix préféré. C'est comme ça que j'ai envie de m'entretenir avec mon corps, de traiter mon corps. Et c'est ce que j'ai envie d'assumer, en fait, avec mon corps. Plutôt, c'est ça mon tissu préféré, c'est mon choix préféré.
Merci beaucoup Gaïa Gigi d'être venue ce matin dans les studios.
Merci.
France Culture. Votre film sort aujourd'hui en salle, Mon tissu préféré. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe des matins, Pauline Chanu et Jean-Christophe Briançon à la programmation, Marine Beccarelli et Cédric Fuentes, Aurélie Clément et Cosima Mézidi, des matins réalisés par Benjamin Hu avec Emmanuel le Morse d'Incan ce matin, la technique. Et puis un mot pour vous dire quelque chose sur le grain à moudre de ce soir, la nourriture industrielle Elle va-t-on en finir avec le risque ? Raphaël Bourgois fera discuter ses deux invités, la rapporteure de la commission d'enquête parlementaire sur le sujet, Michel Crouzet, et le médecin nutritionniste Laurent Chevalier. Ce sera donc ce soir 18h15.